Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Billy Ivan Lutumba à la présentation.
Nous vous parlons en ouverture de ce journal de la rencontre à Goma entre une délégation composée des membres de la CENCO et de l'Église du Christ au Congo SCC avec les rebelles du M23 et de l'AFC de Corneille Nanga. C'est dans le cadre des consultations menées par ces deux églises auprès des acteurs sociopolitiques du pays. Les yeux des nombreux Congolais sont braqués vers Arusha en Tanzanie où s'ouvre ce jour le procès RDC contre le Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le débat sur la recevabilité de la cause RDC-Rwanda va se poursuivre demain jeudi. La RDC espère obtenir des sanctions contre Kigali. Professeur Alphonse Maindo, invité de ce journal, commente les différents accords nationaux, bilatéraux et multilatéraux signés par le gouvernement avec certains acteurs et leur impact sur la stabilité en RDC. D'autres contours de l'actualité congolaise, c'est tout de suite sur Radio Okapi, votre chaîne d'information fiable par excellence. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Fidèles auditeurs, bonsoir. Une délégation composée des membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et de l'Église du Christ au Congo SCC a rencontré ce mercredi à Goma Corneille Nanga de l'AFC, Alliance Fleuve Congo et d'autres dirigeants du groupe rebelle M23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations menées par ces deux confessions religieuses auprès des acteurs sociopolitiques du pays pour tenter de trouver une issue à la crise actuelle. D'après le secrétaire général de la CENCO, contacté par Radio Okapi juste après cette rencontre, les représentants religieux ont présenté leur plan de sortie des crises intitulé « Pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC » visant à renforcer la cohésion nationale. On écoute Mgr Donatien Cholé, joint par Grâce Hamzati.
L'objectif, c'est de convaincre que la lutte armée n'est pas la solution, mais nous venons avec une proposition qui peut contribuer à la construction de la paix durable, donc le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble.
Et quelle était la réaction du groupe rebelle?
Bon, il a dit être ouvert au dialogue, il a promis de nous envoyer dans le meilleur le cahier des charges. À l'issue de nos échanges, nous sommes renforcés dans notre conviction que par rapport à toutes ces revendications que certains peuvent considérer de prétexte, il y a lieu de s'asseoir pour résoudre tout ça pacifiquement. Il est d'accord que si on trouve la solution à leurs revendications le plus tôt possible, la lutte armée n'aurait plus de sens. Voilà pourquoi nous sommes excités à continuer à convaincre davantage pour mettre fin à la guerre.
Rappelons qu'avant leur déplacement à Goma, ces représentants religieux avaient déjà rencontré plusieurs figures. En premier, le chef de l'État, puis quelques leaders de l'opposition ici à Kinshasa, notamment Martin Fayulu, Délice Sang et Matata Ponyo. Cependant, cette démarche ne fait pas l'unanimité. Certains acteurs politiques, dont l'UDPS, parti au pouvoir, rejettent l'idée d'un dialogue direct entre les églises et le M23. Toutes les confessions religieuses sont appelées à se mettre ensemble pour des initiatives de la paix et de la cohésion nationale. C'est ce qui ressort de la rencontre dans la soirée de mardi à Kinshasa entre le président de la République et une délégation des confessions religieuses. Ces délégations étaient composées notamment de l'église de réveil, l'église kimbanguiste, des musulmans et autres. Les échanges ont porté sur l'initiative des églises catholiques et protestantes pour un forum national afin de résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. On écoute à ce sujet l'archevêque Ejibayama Pierre Evariste, représentant légal de l'église des réveils du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses qui conduisait cette délégation. Il est au micro de Grâce Hamzati.
Nous avons dit au président de la République que nous avions reçu dans le cadre de la plateforme Mgr Cholet et le révérend Eric Senga. Et de là, le chef de l'État a rassuré qu'il est ouvert à toute initiative tendant à ramener la paix dans notre pays et surtout travaillant dans le sens de la cohésion nationale. À ce sujet, le chef de l'État était clair que cette initiative doit être inclusive. L'inclusivité signifie qu'on doit retrouver et les catholiques, et les protestants, et l'église de réveil, et d'autres confessions religieuses. Donc, ensemble, on fait un programme commun, on fait une coordination commune, et cela sera un exemple que nous montrons à la population et aux politiques congolais que nous, les pères spirituels, nous sommes unis. Et aussi savoir que l'on est redevable et que ce n'est pas une institution qui se met en place. Non, c'est juste un cadre qui permet que les Congolais puissent voir dans la même direction.
Par la même occasion, les responsables religieux annoncent une série de manifestations et des prières spécifiques pour la paix dans l'est de la RDC. Le débat sur la recevabilité de la cause RDC-Rwanda va se poursuivre demain jeudi devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple à Arusha en Tanzanie. Le vice-président de cette juridiction africaine a levé cette option après avoir suivi les plaidoiries des deux parties en conflit. Explication de Blaise Ndongala Mayanda.
Dans ce procès, la RDC accuse le Rwanda d'avoir commis diverses exactions dans sa partie orientale, parmi lesquelles les tueries, viols, vols, enlèvements, incendies de maisons et autres. Premier à prendre la parole devant la composition, l'avocat conseil du Rwanda a demandé à la Cour de rejeter clairement la requête de la RDC qui, selon lui, viole l'acte constitutif de l'Union africaine. Il a cependant noté que cette requête ne relève pas non plus de la compétence territoriale de la Cour des séances.
Cette requête ne relève pas de la compétence matérielle de la Cour des séances.
De leur côté, les avocats conseillers de la RDC ont balayé du revers de la main l'argumentaire étayé par l'État défenseur. Pour l'un d'eux, Maître Marcel Wetchokonda, le Rwanda fait du sophisme, ignorant que la compétence de cette Cour s'élargit au territoire de tout État membre de l'Union africaine.
La Cour déclarera évidemment compétente dans la mesure où le Rwanda a commis et continue de commettre des violations des droits de l'homme sur le territoire de la RDC, qui est un État parti au protocole.
Hormis le vice-ministre de la Justice et contentieux international, de nombreuses autres autorités congolaises prennent part à ces procès à Arusha, dont les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, professeur Tumba Luaba.
Les militaires congolais poursuivis par la justice pour viol, pillage, meurtre, vol et dissipation des munitions sont toujours à la barre devant le tribunal militaire garnison de Bukavu. Leur nombre augmente chaque jour au fil des recherches lancées par les services de sécurité à la trousse de ces militaires accusés d'avoir fui devant l'avancée de l'ennemi à Niabiboué dans le territoire de Kalehe. D'autres ont été interceptés à Uvira en fuite vers Kalemi. Les services d'habilité les ont remis au tribunal militaire de garnison d'Uvira où un autre procès a été ouvert. Au regard du nombre croissant des détenus, l'heure est toujours à l'identification des accusés au troisième jour de ce procès en flagrance. Nous poursuivons la ronde de l'actualité à travers le pays. La situation autour de Calais centre reste confuse après des violents affrontements qui s'y déroulent depuis hier jusqu'à ce mercredi. Les combats ont repris le matin autour d'Ioussi après une brève accalmie observée la veille tard dans la nuit. Des combats qui opposent les FRDC aux rebelles du M23. Ce mercredi, le chargé de la communication à la troisième zone de défense, le major Nestor Mavoudissa, parle des combats violents autour des Ioussi et Calais, centre provoquant d'énormes dégâts. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jean Kassami.
Pour la énième fois, il vient d'attaquer les positions de FRDC basées à Ioussi et Calais, centre, dans le territoire qui porte le même nom, sur le front du Sud Kivu et à Ndoloma, et Lubango dans le territoire de Lubero au front du Nord Kivu. Lundi 10 et mardi 11 février 2025, avant d'être repoussé par les vaillants militaires du FARDC qui ne jurent que par la défense de l'intégrité du territoire national. Ces attaques ont causé plusieurs pertes en vies humaines parmi les civils. Les commandants de la 3e zone de défense, tout en dénonçant l'attitude belliqueuse de l'armée rwandaise et ses M23, souligne qu'aucune barbarie terroriste ne sera tolérée en cette période et que nos positions seront énergétiquement défendues contre toute attaque d'où qu'elle vienne. Nous demandons à la population d'être calme et de collaborer avec son armée en dénonçant tout mouvement ennemi auprès des services de défense et de sécurité de la RDC œuvrant dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu.
Pendant ce temps, dans le Nord Kivu, la société civile de Lubero demande au gouvernement de doter les FRDC des moyens conséquents pour récupérer les zones occupées par le M23 pillées par le Rwanda. Elle a exprimé cette demande mercredi au ministre de la Défense en mission depuis 3 jours à Beni Butembo et Lubero. Elle plaide aussi pour un meilleur encadrement des militaires et Wazalendo afin d'éviter des violations des droits humains ainsi que pour l'implication de l'inspection générale des FRDC contre les détournements des fonds alloués aux troupes. On écoute son président Muindo Tafuteni dans cet extrait choisi par Martial Papi Mukeba.
Doter des moyens conséquents aux FRDC et aux Wazalendo afin qu'ils opèrent efficacement sur le terrain tout en améliorant leur rémunération. Mobiliser une assistance conséquente en faveur des personnes déplacées internes dans l'urgence. Finaliser la procédure de mise en place de la réserve armée. Organiser des offensives simultanées sur toutes les lignes de front afin de récupérer toutes les entités qu'on vise et éviter de se faire attaquer pour riposter après. Engager mieux les troupes de FARDC et GDP Wazalendo en minimisant les violations graves des droits humains afin de favoriser le soutien total de la population civile à son armée et alliée. Demander au service de l'inspection militaire de bien jouer son rôle pour éviter les cas de détournement de rançon, primes des militaires et autres.
Pour sa part, le ministre de la Défense nationale a appelé toutes les couches de la société civile à poursuivre leur soutien sans relâche au FARDC. Après l'occupation de Goma par le M23, plusieurs familles des militaires autrefois logées au camp militaire de Cap Kindo ont fui ce camp pour trouver refuge dans des écoles, des églises et des maisons autour de ce camp. Composée à majorité des femmes et des femmes, une partie de ces familles sont sans nouvelles de leur mari et père qui servait le pays sous le drapeau. Dans ces écoles, elles manquent de tout, nourriture, eau potable, soins médicaux et abris décents. La situation est encore plus difficile pour celles qui sont originaires d'autres provinces de la RDC et qui souhaitent rentrer chez elles mais n'en ont pas les moyens. Leur témoignage dans ce reportage que nous propose Rosalie Zawadi.
À 52 ans, cette mère de cet enfant, déjà éprouvée par les deuils de son mari militaire, a dû quitter précipitamment les camps de Katindo avec ses enfants après la chute de la ville. Son sort est incertain, comme celui de nombreuses autres familles des militaires.
Mon mari est mort au front à Beni. Depuis sa disparition, je ne vivais qu'au camp Katindo. Le peu d'argent de solde que je recevais en son nom me permettait de prendre soin des enfants. Après l'attaque de la ville, nous avons fui le camp pour vivre dans les églises. Ici, la situation est aussi compliqué. Ceux d'entre nous qui se sont réfugiés dans les maisons d'autrui sont chassés. Je demandais à toute personne de bonne volonté de m'aider à rentrer à Kabizo, mon village d'origine.
Près de la même église, une femme plus jeune qui décrit, elle, les conditions dans lesquelles vivent les familles des militaires depuis qu'elles ont quitté les camps Katindo.
Nous vivons actuellement dans des conditions difficiles dans une église. Nous n'avons pas de nourriture, nos enfants sont exposés à des maladies. Les rebelles ont pris tous nos biens, ce qui nous rend encore plus vulnérables. Nous ne savons pas quand cette guerre prendra fin. Tout ce que nous voulons, c'est voir ces rebelles partir pour que nous puissions regagner nos domiciles.
À côté de l'assistance en besoin en première nécessité, plusieurs femmes demandent les moyens de rentrer dans leur province d'origine.
Nous allons nous rendre à présent à Ituri où une nouvelle attaque des miliciens de la Codeco la nuit de mardi à ce mercredi a fait 8 morts dans le village de Lodja. C'est à environ 90 km au nord de Bounia dans le groupement de Djaïba, territoire de Djougou. D'après des sources de sécurité, plus de 50 maisons ont été également incendiées par ces miliciens et tous leurs biens calcinés. De nombreux habitants de cette entité ont fui dans les villages proches. Cette troisième attaque en 3 jours accentue encore la tension communautaire dans la zone où certains se plaignent de ce qu'ils qualifie de léthargie du gouvernement face à ces exactions. Pour rappel, environ 70 personnes sont déjà tuées en l'espace de 4 jours dans ce milieu. Et puis un mot de santé avant de passer à la page internationale. Dans la province du Maniema, des cas de diarrhée sont signalés et enregistrés dans la zone de santé de Kampene, en territoire de Pangui. Plusieurs sources assimilent cela au choléra. Les malades qui se dirigent au centre de santé de Bilundu pour les soins appropriés, certains succombent car ce centre n'a pas les moyens nécessaires de les prendre en charge. Déjà jusqu'au matin de ce mercredi 12 février, 38 malades ont été signalés, parmi eux 6 décès enregistrés dans la zone de santé rurale de Kampene.
Actualité internationale.
Alors que la guerre civile au Soudan dure depuis bientôt 2 ans, les Émirats arabes unis ont appelé ce mardi à un cessez-le-feu durant le mois de Ramadan. Cette initiative destinée à permettre un répit humanitaire a été immédiatement rejetée par l'armée soudanaise. L'armée soudanaise considère les Émirats comme un acteur hostile dans le conflit, les accusant de fournir des armes aux forces de soutien rapide FSR, une milice paramilitaire. Ces accusations ont été jugées crédibles par des experts de l'ONU et des parlementaires américains, bien que les Émirats arabes unis aient nié tout soutien militaire au FSR. Et puis, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ne se rendra pas à Washington si l'ordre du jour inclut le plan américain de transfert des Palestiniens de Gaza, ont indiqué des sources sécuritaires égyptiennes. Le président américain Donald Trump propose de déplacer plus de 2 millions de Palestiniens hors de Gaza, de placer l'enclave sous contrôle américain et d'en faire la Riviera du Moyen-Orient. Il exige que l'Égypte et la Jordanie accueillent les Palestiniens et menace de suspendre l'aide américaine en cas de refus. Le Caire, qui reçoit 1,3 milliard de dollars d'aide militaire annuelle des États-Unis, rejette catégoriquement cette option.
L'invité.
Les différents accords nationaux, bilatéraux et multilatéraux signés par le gouvernement avec certains acteurs ont apporté un minimum de stabilité en RDC. Cependant, au regard du nombre d'accords signés à l'interne ou à l'externe en vue de la stabilisation de l'Est de la RDC, les résultats escomptés ne sont pas encore atteints. Que faire pour une paix durable en RDC? Pour en parler, nous recevons un des orateurs du jour, le professeur Alphonse Mahindo, qui s'entretient avec Jacques Mokonkole. Il a participé au Cette question a été traitée au centre d'un forum citoyen organisé mardi à Kisangani.
Professeur Mahindo, bonjour.
Bonjour.
Quelle évaluation faites-vous de tous les accords signés en vue de ramener la paix en RDC?
Globalement, ces accords-là, il y a des accords bilatéraux, il y a eu des accords internes entre les Congolais, mais il y a eu aussi des accords multilatéraux, donc qui ont inclus plusieurs acteurs. Mais ça a apporté un minimum de stabilité. Par exemple, si vous regardez entre 2003 et 2018 ou 2019, c'est cet accord-là, l'accord global inclusif, qui a permis d'avoir ces institutions qui sont nées des élections de 2006 avec les référendums de 2005 qui a donné ces institutions-là. On a eu aussi quelques accords bilatéraux qui ont permis de déstabiliser un peu l'Est et aussi avec les interventions de la MONUSCO qui ont permis de défaire notamment le M23 en 2012. Donc, si vous voulez, ça a contribué d'une certaine manière. Mais si on regarde la situation actuelle par rapport au nombre de d'accords qui ont été signés à la fois internes, bilatéraux, multilatéraux, tout ça. L'objectif majeur d'arriver à la stabilisation, à une paix durable à la RDC, n'a pas été atteint. Nous sommes bien loin de là.
Pourquoi tous ces accords n'ont pas abouti à une paix durable?
C'est parce que nous avons souvent signé, si pas toujours, ces accords dans une situation de faiblesse. Et donc, les termes de ces accords nous ont toujours été défavorables à ce fait-là.
Professeur Mahindo, que devrions-nous faire alors?
Ce que nous devrions faire, nous signons un accord comme ça en état de faiblesse, mais on profite de ces répits que cela nous donne pour se reconstituer, pour se refaire des forces, pour nous permettre de dissuader ceux qui seraient tentés de revenir pour nous demander d'appliquer ces accords-là, pour qu'ils ne le fassent pas et qu'on préserve nos intérêts. Mais c'est ce qui nous a manqué.
Vous ne voyez pas qu'il y a aussi manque de sincérité de certains acteurs dans tous ces accords qui sont signés?
Ça, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est consubstantiel. J'allais même dire que c'est ontologique à tous les accords. Lorsque vous allez signer un accord, les gens ont toujours derrière la tête des arrière-pensées. Et c'est pour ça que quand on va négocier, chaque mot compte, parce que chaque acteur peut placer derrière un mot ce que lui, il a dans la tête. Il veut gagner quelque chose, il le dit d'une certaine manière pour créer une ambiguïté de sorte qu'il puisse s'en servir après. Ça, c'est une règle d'or. Et tous les accords, depuis la nuit des temps, il a toujours été ainsi.
Quels sont les enjeux de tous ces accords?
Il y a des enjeux communs. Par exemple, pour ce qui concerne les accords multilatéraux et les accords régionaux ou bilatéraux avec les États qui nous entourent ici, premier enjeu qui est aussi national, c'est le leadership. Il y a un vide. Les pouvoirs n'aiment pas le vide. Et donc, il y a une guerre de leadership, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Tous nos voisins veulent ça. Et donc, ils vont tout faire pour nous neutraliser, pour qu'on soit faible. Il n'y ait pas une émergence avec un leadership fort. Deuxième enjeu qui me semble important en ce qui concerne l'intérieur du Congo, c'est la légitimité des institutions, des animateurs de ces institutions. Et voilà. L'autre enjeu, pour moi, qui est important aussi, c'est le contrôle du pouvoir et des ressources du pouvoir. Le Congo, depuis sa création, c'est un pays qui est perçu comme un comptoir des ressources naturelles et l'ivoire. Maintenant, après vient la mise en valeur, on découvre qu'il y a des minéraux, donc on commence à exploiter le cuivre et le cobalt. Mais aujourd'hui, nous avons toujours le même enjeu avec beaucoup de ressources naturelles aujourd'hui, surtout les ressources qui sont considérées aujourd'hui comme les ressources stratégiques pour l'économie mondiale. Et vous ajoutez à ça la biodiversité avec les grandes forêts que nous avons ici, 60% des forêts du bassin du Congo. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que cette convoitise, cette volonté de contrôler ces ressources-là, prime sur les populations.
Quel est votre point de vue par rapport aux concertations, aux dialogues initiés par les évêques? Est-ce que cela peut nous amener à une issue favorable?
Les évêques, n'est pas leur première initiative de dialogue et des accords. Vous vous souvenez de l'accord de la Saint-Sylvestre et d'autres accords qui étaient signés. Donc, ça peut donner des moments de répit de courte durée, mais les problèmes de fond demeurent.
Qu'est-ce qu'il faudra faire aujourd'hui pour qu'il y ait une paix durable dans notre pays?
La première condition pour avoir une paix durable dans ce pays, c'est la restauration de l'État. Qu'on ait une armée qui fonctionne, qui va dissuader, qu'on ait une police fonctionnelle, qu'on ait une justice fonctionnelle, une administration efficace, mais qu'il y ait aussi une bonne gouvernance, moins de corruption, et qu'on ait aussi un leadership avec une vision claire, une vision stratégique, et qui va mobiliser, qui va identifier les intérêts du Congo et qui va mettre les moyens pour réaliser ces intérêts-là. Il faut qu'il y ait attaqué aussi aux racines sociales et économiques du mal que nous avons au Congo. Troisième condition pour avoir une paix durable, il faut que nous puissions avoir une ouverture d'esprit, arrêter la loi du plus fort, de l'injustice. Et c'est ça, ça crée des frustrations, ça pousse les gens à aller faire de la vengeance, à s'allier même avec les diables pour déstabiliser l'État congolais.
Professeur Maindo, merci.
Donc, je vous en prie.
À vous, auditeurs de Radio Capi, nous disons aussi merci d'avoir écouté ce journal.